Je m'appelle Cécile Coumeau et je vous propose de pénétrer dans le petit appartement parisien d'Hélène et de son mari. Un tapis d'éveil dans un coin, des biberons dans la cuisine, pas de doute, un bébé vit ici. En fait, une petite fille est arrivée dans ce foyer il y a 2 mois, après un parcours d'assistance médicale à la procréation de 10 ans, qui ne s'est pas terminé comme prévu. Hélène m'a raconté ses multiples désillusions, son émotion est à fleur de peau. Vous l'entendrez, ainsi que les babillements de sa fille et les petits bruits de jouets en fond sonore.
Leurs mots à elles. Le podcast de Ça m'intéresse qui fait entendre la voix des femmes sur leur corps et leur santé.
Avoir des enfants, ça a toujours été pour moi une évidence. J'en ai toujours voulu. J'ai eu un petit frère qui est né, j'avais 21 ans. J'ai essayé de beaucoup m'en occuper, j'ai beaucoup aimé ça. La question ne se posait absolument pas pour moi, ni pour mon mari, d'avoir des enfants. Et dès qu'on s'est mariés, j'ai arrêté la pilule et on a mis en route les tentatives pour essayer d'avoir un enfant. J'ai toujours eu en tête l'idée que ça pouvait poser problème. Et je me suis toujours dit que pour moi, ça n'en poserait pas. Parce que je n'avais jamais eu aucun problème, d'aucune sorte, sur tous les aspects gynécologiques, cycles, j'avais des cycles très réguliers, je n'avais absolument aucune difficulté, mais je connaissais des gens autour de moi pour qui ça avait été compliqué. À l'époque, j'avais 32 ans, on était donc assez impatients, donc assez rapidement, en fait, on est allé voir un médecin qui nous a d'abord conseillé pendant 6 mois de faire bien attention, d'être plus méthodique, disons en gros. Donc on a fait ça pendant 6 mois et ça n'a jamais marché. Et j'ai commencé à avoir les séances où je découvre que j'ai mes règles et je fonds en larmes et je suis en train de travailler au bureau et il faut que je revienne avec les yeux tout rougis sans pouvoir expliquer. Mais en fait, ça n'était que le début. Voilà, ensuite au bout de 6 mois, on est allé voir un spécialiste. On a fait toute une série d'examens, la batterie d'examens classiques. Puis, on est parti dans des séries de traitements. Donc, c'est juste une prise de médicaments qui permet de provoquer, en fait, la sortie de plusieurs ovules. Ça n'a à nouveau pas marché. Après, j'ai commencé à faire des traitements avec piqûres. Mon mari a fait une formation auprès d'une infirmière pour me faire les piqûres parce que, moi, en plus, j'ai une phobie des aiguilles. Et donc, l'idée de me faire plusieurs piqûres par jour, moi-même, me paraissait insurmontable. Ce qui a bien changé ensuite, évidemment. On était toujours dans des traitements d'insémination, c'est-à-dire sans passage par une FIV. 6 fois, 6 échecs. Je n'ai jamais été enceinte. On vivait à l'époque aux États-Unis, donc après on est rentré en France, on a été voir des grands spécialistes et on a fait une première FIV. Ça faisait déjà 3 ans qu'on essayait d'avoir un enfant et que j'avais arrêté la pilule. Première FIV, je tombe enceinte. J'ai explosé en larmes en allant récupérer les analyses de sang au labo. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que le matin, j'avais mal au ventre, donc j'étais convaincue que j'allais avoir mes règles. Et donc j'étais absolument certaine que ça n'allait pas marcher. J'avais déjà appelé 3 fois mon mari pour lui dire que ça n'allait pas marcher. J'en ai un très mauvais souvenir parce que on me demandait de faire une prise de sang tous les 2 jours pour vérifier que le taux montait bien correctement et que donc je ne faisais pas de fausse couche. Et on nous dit, vous vivez exactement pareil, à part que vous ne buvez plus d'alcool, et bien sûr. Mais sinon, c'est limite si on ne peut pas faire de la moto. Et en fait, on n'ose rien faire. On n'ose absolument rien faire. Et en même temps, on nous dit, il faut bouger, il faut vivre pareil, il faut être détendu. C'est impossible. Au bout d'une dizaine, quinzaine de jours, le taux ne montait plus. J'ai téléphoné à la médecin pour dire donc que mon taux était en baisse. Je suis tombée sur le secrétariat qui m'a dit « vous êtes en fausse couche » et qui a raccroché. Ça, en France, les gants, c'est pas vraiment ça. C'est même particulièrement pas ça. J'avais eu une expérience américaine, après j'ai eu une expérience en Espagne. Et dans les deux cas, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment, vous êtes un numéro, de toute façon, on en a plein. Le cabinet dans lequel j'allais, qui était un cabinet, encore une fois, de grands spécialistes parisiens, on attendait plus de 2 heures, parce que tellement ils prenaient des rendez-vous en plus, ils se donnaient à fond, c'était pas la question, et ils étaient très forts, ils avaient beaucoup de résultats. Mais en termes humains, c'était vraiment pas ça. C'est très différent de ce que j'ai vécu dans les 2 autres pays. en termes de gentillesse, de douceur et de chaleur. Par exemple, aux États-Unis, la dernière fois, la dernière insémination, la sixième qui était la dernière avant qu'on rentre en France, au moment où ils m'ont annoncé que les ovules produites n'étaient pas correctes, ils m'ont mis dans une petite pièce à part. Et un médecin s'est assis avec moi et m'a expliqué très calmement. J'ai pu pleurer tranquillement. Et voilà, c'était pas au téléphone, bah, vous êtes en train de faire une fausse couche, au revoir, quoi. De la même manière, aux États-Unis et en Espagne, la femme sur laquelle on procède à toute une série d'échographies vaginales, on la couvre pendant les examens. En France, on l'a fait se déshabiller de l'autre côté du cabinet, on l'a fait traverser toute nue, les fesses à l'air, le cabinet, pour aller s'allonger, les jambes écartées, sur un lit. Sachant qu'à chaque fois, il faut savoir que chaque tentative, c'est une échographie tous les 48 heures. Pour voir ce que c'est, tous les matins, tous les deux jours, tous les trois jours, on y va, on fait une prise de sang, on y va avant de travailler très tôt le matin, on attend avec toutes les autres femmes qui attendent, on fait une échographie vaginale, les fesses à l'air, on se rhabille et on va travailler. Donc ça représente toute une abnégation, je dirais, importante, qui n'est pas forcément sensible, y compris pour les hommes, par exemple. Ils ne peuvent pas nous accompagner à chaque fois, et c'est normal. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi de leur faire comprendre qu'à force de... Mais c'est tellement personnel, c'est tellement de la pudeur, c'est tellement intime, que c'est très difficile à partager, y compris avec une copine, en fait. Les copines, elles comprennent quand elles le vivent, vraiment. Les sentiments qui traversent à ce moment-là, c'est beaucoup de sentiments d'injustice. Beaucoup, beaucoup de sentiments d'injustice. Moi, j'ai certaines copines, pas des amies quand même, qui m'ont annoncé qu'elles étaient enceintes, avec qui j'avais parlé du fait que j'allais arrêter la pilule et que je voulais des enfants et que voilà, etc. Et avec lesquelles j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à renouer en fait de vraies relations. Je suis obligée de le reconnaître et c'est entièrement de mon fait. Parce qu'en fait, je voyais pas pourquoi j'avais pas de chance. Et c'est une espèce de sentiment diffus, d'envie, un peu de jalousie, ouais, je pense, diffuse. C'est difficile de se le dire, mais ça existe. Je pense que ça devient obsessionnel au bout d'un certain temps. Je pourrais pas dater le moment où c'est devenu obsessionnel, notamment pour nous deux, pour notre couple. En 2012, quand on rentre des États-Unis, qu'on fait la première FIV, on est dans un moment où les gens nous disent « ça vient pas, ça va venir ». Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, j'ai cru que j'allais les étriper. C'est pas la question que ça vienne, c'est la question que je fais des traitements très lourds, qui me pèsent énormément. C'est la question que chaque fois que j'ai mes règles, c'est horrible. Je ne sais pas comment le dire, c'est une remise en cause existentielle. Ma vie ne peut pas exister sans enfants. Je rêve d'avoir des enfants, on rêve d'avoir tous les deux d'avoir des enfants. On adore ça, on adore jouer avec les enfants. On a construit notre couple autour de ça. On veut une famille, une grande famille. Donc c'est pas la question que ça ne vienne pas. Non, on est au-delà de ça déjà depuis longtemps. Donc oui, de ce point de vue-là, ça devient obsessionnel. On lance la deuxième FIV. C'est le moment où j'ai commencé à me faire mes piqûres moi-même. Et c'est aussi le moment, ça je m'en souviens très très bien, où les veines de mes coudes, pour faire les prises de sang, sont devenues quasiment plus utilisables en fait. Ça me faisait un mal de chien à chaque fois et la FIV ne se passe pas bien, la médecin n'arrive à sortir qu'un seul ovule. Là, je m'en souviendrai toute ma vie, le médecin qui me fait l'implantation, le transfert, qui était absolument glacial et sans aucune chaleur, je lui dis qu'est-ce que vous pouvez me donner des conseils sur ce que je fais là les prochains jours avant le test, parce que je vais être complètement affolée, j'ai déjà fait une fausse couche. Et il me dit, vous ne poussez pas aux toilettes. Je ne lui pardonnerai jamais. On ne dit pas ça à une femme à qui on transfère un embryon. J'étais ultra stressée à chaque fois que j'y allais. Et qu'est-ce que ça... Comme si ça avait un lien... Enfin, voilà. Cette grossesse ne prend pas. On décide de changer de cabinet. Là, on est suivi au Bluet, donc dans un hôpital, par une équipe extraordinaire. Ça change du tout au tout. Donc on procède à une nouvelle FIV après encore toute une série de nouveaux examens. Ma petite chérie, est-ce que tu veux aller jouer dans ton tipi? Ou est-ce que je vais être là? Ouais. Là, ils me font faire un examen pour aider à l'implantation, qui consiste en fait à aller ponctionner, pour le coup, à l'intérieur, un petit morceau d'endomètre. Donc ça se fait sans anesthésie. Ça dure soi-disant 10 secondes. Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est c'est une douleur, mais un... on vend père et mère, là. Tout. Et cette fois-ci, il y a deux embryons qui sortent en blastocyste, qui me sont implantés, et ça ne fonctionne pas non plus, je ne tombe pas enceinte. Le médecin, à ce moment-là, nous dit on peut recommencer, mais honnêtement, regardons les choses comme elles sont. Vos ovocytes sont de très mauvaise qualité. Entre-temps, j'avais passé largement 35 ans, et l'ovocyte, c'est la boîte à outils de l'embryon. Vous n'aurez pas d'embryon de bonne qualité avec des ovocytes de mauvaise qualité, quelle que soit la qualité du sperme par ailleurs, etc. On commence à envisager d'aller de faire un don d'ovocytes. C'était une procédure à laquelle on avait déjà pensé, qui m'avait beaucoup bouleversée, où je trouvais ça très dur en fait, de se dire qu'on allait porter un enfant qui n'était pas de ses propres gènes. Je me suis beaucoup entendue dire « Pourquoi tu veux qu'il te ressemble ?»« Bah, je sais pas, les autres gens, ils ont des enfants qui leur ressemblent. » Pourquoi est-ce que moi non ? Voilà, donc j'ai mis un certain temps quand même. On avait quand même déjà aussi, bien sûr, l'adoption en tête. Et l'idée, c'était de se dire, c'est quand même plus simple. Parce que l'enfant est porté, il naît, on l'a à la naissance, c'est vraiment le nôtre. Nous voilà partis en Espagne. Il y a tout le même cycle de FIV, sauf que moi je faisais un traitement hormonal, mais plus léger. Et celle qui avait le gros traitement hormonal, c'était la donneuse, qui avait aussi l'anesthésie générale. Mon mari donne son sperme comme d'habitude, si j'ose dire. Et puis, j'ai le transfert d'embryon. Là, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Bon, j'étais couverte. Tout est retransmis sur un écran. On voit l'embryon qui rentre. Enfin, ça humanise, moi, je trouve, beaucoup. Et puis, ça se fait dans une espèce de... On a l'impression d'être, à ce moment-là, une personne unique à qui on implante un embryon qui va devenir un petit bébé, le sien, et... Je tombe enceinte. Je vais aux urgences à peu près 6 semaines. Échographie, il n'y a rien. Ça s'appelle un œuf clair. Les hormones disent qu'on est enceinte, mais en fait, l'embryon n'a pas pris. Nous voilà repartis à Séville. On implante 2 embryons. On rentre comme d'habitude. On n'y croit pas comme d'habitude. Sauf que moi, quand même, je sens qu'il se passait quelque chose. 48 heures après, je suis enceinte avec un taux exponentiel. Je me dis, ça sent la grossesse multiple. On attend cette fois, franchement 6 semaines je crois, pour faire la première écho. Et là, le médecin nous dit donc qu'il y en a bien 2. Et puis au bout d'un moment, nous dit, mais vous voulez savoir quelque chose là ? Je vois quelque chose. Et il regarde. Et en fait, il y en avait 3. C'est-à-dire qu'il y avait un des embryons, qui c'était un œuf, en fait, qui s'était divisé en 2. Et donc il y avait une poche où il y avait 2 vrais jumeaux. Et une poche où il y avait un tout seul. Mon mari était super content. Les triplés, super contents jusqu'à la fin. Moi, j'ai été malade tout de suite, très malade. J'ai arrêté de manger très vite, etc. Là, je me fais une petite déprime, quand même. Une grosse déprime. Je suis retournée voir la psychologue avec qui j'en ai longuement discuté. J'ai été très obsédée par le fait que j'arrivais vraiment à rien faire normalement. Non seulement j'arrivais pas à avoir un enfant, déjà, comme tout le monde, mais en plus, quand j'y arrivais, j'en avais 3. J'allais me retrouver avec une poussette avec 3, avec une vie infernale. C'était difficile à faire passer comme angoisse parce que, tu voulais une famille nombreuse, bah t'en as 3, hein. Et c'est vrai. Mon mari était très, 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 très content, lui. On fait des plans pour arriver à mettre 3 lits, etc., dans la minuscule petite pièce, chambre d'enfant prévue, etc., etc. On rencontre le grand professeur avec d'autres médecins, tout un collège médical qui nous explique en gros que c'est une grossesse très à risque et qui nous recommande fortement ce qu'on appelle poliment une réduction embryonnaire, c'est qui consiste en réalité à donc tuer 1 ou 2 embryons dans le ventre, à bloquer leur développement alors que les autres se développent. Nous, on n'était pas très emballés, évidemment, vu notre parcours. Donc, on envisage plutôt les 3. Je fais une échographie à, je crois que c'était 9 semaines. Et là, elle m'annonce que les vrais jumeaux vont extrêmement mal. Elle ne me dit pas ça comme ça, elle me l'a dit après, en fait. Après quoi, elle m'a dit que c'était épouvantable. Qu'elle n'avait quasiment jamais vu ça. J'accepte finalement assez bien. Je suis obligée de reconnaître avec une forme de soulagement ce qu'elle me propose, c'est-à-dire la fameuse réduction embryonnaire. Moi, je repars de là avec un bébé, une grossesse normale, si on peut dire. Un jour, c'est mi-novembre, je vais à ma première consultation avec seulement la sage-femme de routine. J'y vais toute seule, d'ailleurs, le cœur léger, en bus, je me souviens très très bien. Elle peine un peu, puis elle finit par me dire, j'ai appelé le médecin parce que j'ai du mal à... Comme si elle avait du mal avec l'appareil d'échographie. Elle appelle le médecin, et là, le médecin fait l'échographie, et puis lui donne des mesures à noter. Elle dit, ce sera fait, ça. Note. Je ne dis toujours rien. Et le médecin me dit, il y a un problème, le cœur ne bat plus. Alors là, la fin du monde. Là, la fin du monde. Je me souviens de m'être levée, d'avoir tapé contre le mur. Et là, on a décidé de partir en Thaïlande. Je crois qu'on est parti 48 heures après. J'étais dans un état très limite, mais ça nous a éloignés de tout le monde. On avait tellement pas envie de raconter, tellement pas envie de partager finalement, voilà. Nous deux, on a très bien tenu et ça, autour de ça aussi, parce qu'on a réussi à trouver une complicité autour de ça, quand même. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a réfléchi à rester des embryons à Séville, est-ce qu'on réessaye, est-ce qu'on réessaye pas? Finalement, on retourne à Séville. Mais moi, le simple fait de me mettre sur une table d'échographie, je pleurais, c'était plus possible. Donc on a renoncé. Et là, au mois de mai, on a fait la première réunion obligatoire de lancement de l'adoption. L'adoption, ça a toujours été là. La question, c'est quand il n'y a plus que ça. Ça vient pour compenser un échec profond. Ça vient dire « je ne serai jamais enceinte ». Et pour dire « je ne serai jamais enceinte », il fallait que je ne veuille plus l'être jamais. Ça laisse de grosses séquelles, mais c'est... Maintenant que j'ai mon bébé... Et ça fait même pas 2 mois, hein, donc c'est quand même très très récent. J'ai un sentiment de bonheur, mais quelque chose de... Je n'aurais jamais cru possible. J'ai des copines qui ont eu 3 enfants, l'aînée à 13 ou 14 ans, et elles me racontent des trucs qu'elles n'avaient jamais racontés avant. On peut parler de nos enfants.